Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. Extrait numéro 18. En ce début de siècle 21, nous autres, 8 milliards d'humains, asservissions la nature avec passion. Nous lessivions les sols, acidifions les eaux, asphyxions les airs. Un rapport de la Société zoologique britannique établissait à 60% la proportion d'espèces sauvages disparues en 5 décennies. Le monde reculait, la vie se retirait, les dieux se cachaient. La race humaine se portait bien. Elle bâtissait les conditions de son enfer, s'apprêtait à franchir la barre des 10 milliards d'individus. Les plus optimistes se félicitaient de la possibilité d'un globe peuplé de 14 milliards d'hommes. Si la vie se résumait à l'assouvissement des besoins biologiques en vue de la reproduction de l'espèce, la perspective était encourageante. Nous pourrions copuler dans des cubes de béton connectés au Wi-Fi en mangeant des insectes. Mais si l'on demandait à notre passage sur la Terre sa part de beauté, et si la vie était une partie jouée dans un jardin magique, la disparition des bêtes s'avérait une nouvelle atroce, la pire de toutes. Elle avait été accueillie dans l'indifférence. Le cheminot défend le cheminot, l'homme se préoccupe de l'homme, l'humanisme est un syndicalisme comme un autre. La dégradation du monde s'accompagnait d'une espérance frénétique en un avenir meilleur. Plus le réel se dégradait, plus retentissaient les imprécations messianiques. Il y avait un lien proportionnel entre la dévastation du vivant et le double mouvement d'oubli du passé et de supplique à l'avenir. Demain mieux qu'aujourd'hui, slogan hideux de la modernité. Les hommes politiques promettaient des réformes. Le changement, jappait-il. Les croyants attendaient la vie éternelle. Les laborantins de la Silicon Valley nous annonçaient un homme augmenté. En bref, il fallait patienter. Les lendemains chanteraient. C'était la même rengaine. Puisque ce monde est bousillé, ménageons nos issues de secours. Hommes de science, hommes politiques et hommes de foi se pressaient au portillon des espérances. En revanche, pour conserver ce qui nous avait été remis, il n'y avait pas grand monde. Les trois instances, foi révolutionnaire, espérance messianique, arraisonnement technologique, cachait derrière le discours du salut une indifférence profonde au présent. Pire, elle nous épargnait de nous conduire noblement, ici et maintenant, nous économisait de ménager ce qui tenait encore debout. Pendant ce temps, fonte des glaces, plastification, mort des bêtes. Nous étions nombreux dans les grottes et dans les villes à ne pas désirer un monde augmenté, mais un monde célébré dans son juste partage, patrie de sa seule gloire. Une montagne, un ciel affolé de lumière, des chasses de nuages et un yak sur l'arête. Tout était disposé, suffisant. Ce qui ne se voyait pas était susceptible de surgir. Ce qui ne surgissait pas avait su se cacher. C'était là le consentement païen, chanson antique. Léo, je te résume le credo, dis-je. J'écoute, dit-il poliment. Vénérer ce qui se tient devant nous, ne rien attendre, se souvenir beaucoup, se garder des espérances fumées au-dessus des ruines, jouir de ce qui s'offre, chercher les symboles et croire la poésie plus solide que la foi, se contenter du monde, lutter pour qu'il demeure. Léo fouillait la montagne au télescope. Il était trop concentré pour m'écouter vraiment, ce qui me donnait l'avantage de pouvoir continuer mes démonstrations. Les champions de l'espérance appellent résignation notre consentement. Ils se trompent. C'est l'amour. À demain pour un 19e extrait.